Bonjour Pierre-Yves.
Rebonjour
en fait. Bon, on va parler de bourse, de la bourse un peu, parce que l'année 2019 a été assez payante là pour les gens qui s'intéressent à la chose. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même chose en 2020?
Ben, la réponse est non. Et Louis, tu dis les gens qui s'intéressent à la chose, même les Mais gens ça concerne qui ne s'intéressent monde, oui. pas à la chose devraient être concernés. Louis, toi, t'es quel genre d'investisseur? Est-ce que tu regardes tes placements souvent?
Non.
Non?
pas très souvent. Je devrais, mais je le fais pas.
OK, parce que, tu sais, là, évidemment, c'est le 31 décembre, il y a des gens qui vont recevoir dans les prochaines semaines des relevés de leur performance financière annuelle, et ils vont se dire, waouh, mon conseiller est un génie. Évidemment, non. L'année 2019 a été spectaculaire parce que, en 2018, on a fait un plongeon à l'automne puis à la fin de l'année, jusqu'à Noël. Ça fait en sorte que les marchés sont rattrapés en 2019. Donc, par exemple, le TSX au Canada a pris 2500 points en un an, donc 17 % de gains. L'indice, là, pas certains titres, l'indice. Puis le TSX aux États-Unis est allé chercher beaucoup plus. Donc, on est allé chercher du 28-29 %. Mais si on regarde certains titres précis, ça, c'est toujours intéressant.
Ouais.
De voir ce qui a performé l'an passé, ben on a eu du Microsoft qui a été très, très performant à 56 %. Apple, encore plus. Visa, 43-44%. JP Morgan Chase, 42%. Goldman Sachs, 38%. Qu'est-ce qu'on lit là-dedans? Des entreprises de technologie qui sont utilisées fréquemment et des entreprises bancaires.
Ouais.
Rien de, tu sais, Louis, pas de Facebook de ce monde, pas de Uber, là, pas de Pinterest, rien de spectaculaire en bourse, juste des titres qui ont prouvé leur valeur.
Mm-hmm.
D'ailleurs, dans les 10 plus payants, il y a eu Walt Disney avec 33%, donc ça revient à la marotte que je reviens toujours. Vaut mieux investir dans Disney qu'aller à Disney. Mais non, mais Louis, ce qui est drôle avec 2020, c'est qu'on pourra pas faire les mêmes choses. T'sais, l'indice boursier canadien pourra pas prendre 17% cette année, puis américain près de 29%. Ça a aucun sens. Mmh. Donc, faut calmer nos attentes. Donc, si vous avez fait une bonne année en 2019, soyez indulgent envers votre conseiller. Et dites-lui pas, je m'attends à la même performance. C'est pas comme le Canadien, où on veut toujours plus, c'est-à-dire faire les séries.
Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait pas être surpris? Est-ce que, justement...
Moi, je suis pessimiste. Mais moi, c'est ma grande vision de prudent.
Mais on entend beaucoup parler, là, quand on parle aux analystes, d'une mini-récession là, au cours de l'année qui s'en vient.
Mais moi, ce qui me fatigue, c'est toujours... Il y a pas, tu sais, Trump avait baissé les impôts. Bon, on peut pas les baisser un peu plus, là. Après ça, on a eu la guerre commerciale avec la Chine. Ça pourrait se rétablir un peu. Mais là, t'as l'Iran qui vient d'ajouter. Il y a les changements climatiques qui font peur.
Ouais.
Il y a l'incertitude, les inégalités, la dette grecque qui a jamais été éliminée. Tu sais, tout ça sont des facteurs, le Brexit, qui nous tiennent en haleine sur la bourse depuis plusieurs mois, années. Et il y a rien de ça qui se règle. Aux États-Unis, on a un niveau d'endettement élevé. Au Canada, même chose. On dit que les maisons sont rendues à un prix très élevé. Donc, l'espèce une moment donné d'embolie boursière, faut qu'elle se termine. Faut qu'il y ait une espèce de stagnation pour qu'il y ait un retour du balancier.
Mmh.
Alors, est-ce que ce sera 2020? Certains disent oui, certains disent non. Parce que si on pouvait prévoir la bourse, oui, on arrêterait de jaser toi puis moi pour
exactement. Voilà, tout à fait. Mais c'est ça. Puis quand tu parles du retour du balancier, quand le balancier est rendu très haut, ben, il peut pas faire autre chose que redescendre puis arriver très bas, éventuellement.
Ouais, puis si on regarde le prix des immeubles, évidemment, tu sais, il y a une limite à ce que les gens sont capables de payer.
Ouais.
Donc, si les gens sont très endettés, ont des grandes dettes de consommation et que l'immobilier a monté pendant 15 ans à cause de la baisse des taux d'intérêt, ben, il faut se demander, est-ce que les taux d'intérêt peuvent baisser encore fortement et est-ce qu'il peut y avoir une demande ponctuelle pour un marché immobilier précis? Je te donne un exemple. Montréal, Québec, c'est deux mondes. À Montréal, vendre un condo, ça se fait bien. À Québec, tu peux être avec pendant 4, 5, 6 mois.
Mm-hmm.
Donc, ça dépend du marché immobilier dans lequel tu te situes.
Ouais. Bon, est-ce qu'on doit rembourser ses dettes? Et si oui, on commence par où?
Ouais, c'est la question que j'ai depuis une couple de semaines. Tu sais, là, les gens, ils se réveillent du jour de l'an. Bon, comment je règle mes problèmes? Bon, on va y aller comme un docteur. Première chose, les symptômes. Donc, on regarde l'état de la situation, votre bilan. Tu regardes tes placements, puis tes dettes. Bon, là, c'est facile, mais tu fais l'ensemble de tes dettes. Faut être honnête, là. Carte de crédit, oui. Marge de crédit, oui. Mais aller dans le prêt immobilier, les prêts à tempérament. Tu sais, le frigo qu'on paye sur 24 mois, rien à payer avant 2 ans, fait partie des dettes. Et la première chose à faire, c'est de regarder le taux effectif des dettes. C'est-à-dire, dans le diagnostic, y a-tu des dettes à 29 %? Souvent, aller voir dans les cartes de crédit des magasins, c'est les plus chers. Et d'ailleurs, pourquoi avoir deux cartes de crédit en 2020? T'sais, si vous en avez plus qu'une, la question est là. Tout rationaliser dans une seule carte de crédit, mais surtout, regardez la limite.
Mm-hmm.
Moi, ce que je me mets comme limite, c'est 10 % du salaire brut annuel. Parce que je dis, comment c'est possible d'avoir une carte de crédit qui donne autant d'endettement possible que ta capacité d'épargne normale annuelle?
OK, donc si, toi, tu dis que la limite devrait être, mettons, tu gagnes 100 000.
C'est 10 000.
C'est 10 000.
Puis ça, c'est 10 000, la limite de crédit accessible pas utilisé. Mais à quoi ça te sert d'avoir plus que ça? Tu seras jamais capable de la rembourser de toute façon. Donc, l'autre point, c'est après ça, regarder où est-ce que je peux aller chercher de l'argent. Là, souvent, on est étiré, mais un, je peux-tu vendre des actifs? Tu sais, je peux-tu m'aider en vendant un peu mon CELI? Oui, je vais avoir de la peine, mais vaut mieux vendre un CELI à 5 % mm-hmm. que de payer des taux d'intérêt à 29. Et où est-ce que je peux aller restructurer mes dettes? Le premier réflexe que j'ai souvent, c'est de dire, avez-vous de la place dans votre maison? Souvent, les gens sont allés voir, mais les conseillers financiers sont pas toujours au premier abord de ça. Ils disent pas au client, hey, en passant, ta maison, je regardais ça, mais elle vaut 400, puis tu l'hypothéquais à 300. C'est pas une bonne chose d'aller piger dedans, mais pour te sauver de ton 30 000 de dette puis changer tes habitudes, on peut-tu commencer par arrêter de payer du 12, du 15
ben,
puis
c'est
du 22?
Ça. Ouais.
Donc, ça, c'est la première chose à faire. Et le deuxième point aussi, c'est, tu sais, changer ses habitudes. Et là, j'ai un petit truc. Moi, je regroupe mes dépenses en trois catégories. La catégorie nécessaire, j'aurais pu faire d'autres choix puis j'aurais pu pas faire la dépense. Donc, si tu veux faire un vrai diagnostic de tes dettes, faut que tu regardes où l'eau coule. Hein, tu vas regarder tous tes relevés de carte de crédit des 12 derniers mois puis tu te dis... Bon, où est-ce que c'était nécessaire? Bon, l'épicerie est souvent nécessaire. Où oui. j'aurais pu faire d'autres choix, c'est quand tu t'es acheté le fameux système de son neuf à 3 000 $ que t'étais pas obligé, ou la voiture avec un, l'air, je sais pas moi, l'espèce d'aileron arrière. À quoi sert un aileron arrière, hein? C'est comme un peu de payer 10 millions un quatrième centre. Et finalement, la dépense que t'aurais pu ne pas faire, c'est-à-dire tu regardes un bill de sortie de soirée, puis là tu vois que c'est 150 $ parce que t'as payé des chouteaux à tout le monde. Tu sais, c'est pas un bon placement.
Ouais, exactement.
Donc, il y a ça à faire, mais Louis, la chose qu'il faut dire avec les dettes, c'est que c'est extrêmement difficile. Puis moi, je fais souvent une comparaison avec tu sais, le poids, c'est-à-dire prendre un surplus de poids, ça se fait sur plusieurs années souvent, et le réduire, ça prend plusieurs années aussi.
Ouais.
Ben la dette, c'est pareil. C'est que ça te demande pas beaucoup d'efforts pour en prendre, mais beaucoup d'efforts pour
c'est
en
ça.
Perdre.
Exact. Puis c'est comme le poids, il est facile à prendre. T'as pas besoin de faire des gros efforts pour prendre du poids.
Non, c'est ça.
Le perdre, c'est un autre histoire.
C'est une autre affaire. Dans le fond, mais moi, ce que je dis pour vrai, le premier mot, c'est « don't panic ». Chaque fois que j'arrive avec quelqu'un qui a beaucoup de dettes, le premier panique, c'est le premier réflexe, c'est le bouton panique. Puis là, je le dis tout le temps, hey, celui qui te panique, c'est celui à qui tu dois de l'argent.
Voilà.
Parce que lui, il pense pas être payé, tu comprends? Tandis que toi, t'as le pouvoir de payer ou non. Maintenant, il y a une façon de structurer ça puis de prendre son temps.
Monsieur McSween, merci beaucoup. À demain.
Salut.
Salut.